pour marchander des tableaux. Puis, il songea à glisser dans la boîte du journal quelques articles très forts, ce qui amènerait des relations. Peut-être valait-il mieux courir droit au but, déclarer son amour. Alors il composa une lettre de 12 pages, pleine de mouvements lyriques et d'apostrophes, mais il la déchira et ne fit rien, ne tenta rien, immobilisé par la peur de l'insuccès. Au-dessus de la boutique d'Arnoux, il y avait au premier étage 3 fenêtres, éclairées chaque soir. Des ombres circulaient par derrière. Une, surtout, c'était la sienne, et il se dérangeait de très loin pour regarder ses fenêtres et contempler cette ombre. Une négresse qu'il croisa un jour dans les Tuileries, tenant une petite fille par la main, lui rappela la négresse de Madame Arnoux. Elle devait y venir comme les autres. Toutes les fois qu'il traversait les Tuileries, son cœur battait, espérant la rencontrer. Les jours de soleil, il continuait sa promenade jusqu'au bout des Champs-Élysées. Des femmes, nonchalamment assises dans des calèches et dont les voiles flottaient au vent, défilaient près de lui, au pas ferme de leurs chevaux, avec un balancement insensible qui faisait craquer les cuirs vernis. Les voitures devenaient plus nombreuses, et se ralentissant à partir du rond-point, elles occupaient toute la voie. Les crinières étaient près des crinières, les lanternes près des lanternes. Les étriers d'acier, les gourmettes d'argent, les boucles de cuivre jetaient çà et là des points lumineux entre les culottes courtes, les gants blancs et les fourrures qui retombaient sur le blason des portières. Il se sentait comme perdu dans un monde lointain. Ses yeux erraient sur les têtes féminines, et de vagues ressemblances amenaient à sa mémoire Madame Arnoux. Il se la figurait, au milieu des autres, dans un de ces petits coupés, pareils au coupé de Madame d'Ambreuse. Mais le soleil se couchait, et le vent froid soulevait des tourbillons de poussière. Les cochers baissaient le menton dans leurs cravates, les roues se mettaient à tourner plus vite, le macadam grinçait, et tous les équipages descendaient au grand trot la longue avenue, en se frôlant, se dépassant, s'écartant les uns des autres, puis, sur la place de la Concorde, se dispersaient. Derrière les Tuileries, le ciel prenait la teinte des ardoises. Les arbres du jardin formaient de masses énormes, violacées par le sommet. Les becs de gaz s'allumaient, et la Seine, verdâtre dans toute son étendue, se déchirait en moire d'argent contre les piles des ponts. Il allait dîner, moyennant 43 sols de cachet, dans un restaurant rue de la Harpe. Il regardait avec dédain le vieux comptoir d'acajou, les serviettes tachées, l'argenterie crasseuse et les chapeaux suspendus contre la muraille. Ceux qui l'entouraient étaient des étudiants comme lui. Ils causaient de leurs professeurs, de leurs maîtresses. Il s'inquiétait bien des professeurs. Est-ce qu'il avait une maîtresse? Pour éviter leur joie, il arrivait le plus tard possible. Des restes de nourriture couvraient toutes les tables. Les deux garçons fatigués dormaient dans les coins, et une odeur de cuisine, de quinquet et de tabac emplissait la salle déserte. Puis il remontait lentement les rues. Les réverbères se balançaient, en faisant trembler sur la boue de longs reflets jaunâtres. Des ombres glissaient au bord des trottoirs, avec des parapluies. Le pavé était gras, la brume tombait, et lui semblait que les ténèbres humides, l'enveloppant, descendaient indéfiniment dans son cœur. Un remords le prit. Il retourna au cours, mais comme il ne connaissait rien aux matières élucidées, des choses très simples l'embarrassèrent. Il se mit à écrire un roman intitulé « Silvio, le fils du pêcheur ». La chose se passait à Venise. Le héros, c'était lui-même. L'héroïne, Madame Arnoux. Elle s'appelait Antonia. Et pour la voir, il assassinait plusieurs gentilshommes, brûlait une partie de la ville et chantait sous son balcon où palpitaient à la brise les rideaux en damas rouge du boulevard Montmartre. Les réminiscences trop nombreuses dont il s'aperçut le découragèrent. Il n'alla pas plus loin, et son désœuvrement redoubla. Alors il supplia des lauriers de venir partager sa chambre. Il s'arrangerait pour vivre avec ses 2000 francs de pension. Tout valait mieux que cette existence intolérable. Des lauriers ne pouvaient encore quitter Troyes. Il l'engageait à se distraire et à fréquenter Sénécal. Sénécal était un répétiteur de mathématiques, homme de forte tête et de convictions républicaines, un futur Saint-Just, disait le clerc. Frédéric avait monté 3 fois ces 5 étages, sans en recevoir aucune visite. Il n'y retourna plus. Il voulut s'amuser. Il se rendit au bal de l'opéra. Ses gaietés tumultueuses le glaçaient dès la porte. D'ailleurs, il était retenu par la crainte d'un affront pécuniaire, s'imaginant qu'un souper avec un domino entraînait à des frais considérables était aucune grosse aventure. Il lui semblait cependant qu'on devait l'aimer. Quelquefois, il se réveillait le cœur plein d'espérance, s'habillait soigneusement comme pour un rendez-vous, et il faisait dans Paris des courses interminables. À chaque femme qui marchait devant lui ou qui s'avançait à sa rencontre, il se disait « La voilà !» C'était chaque fois une déception nouvelle. L'idée de Madame Arnoux fortifiait ses convoitises. Il la trouverait peut-être sur son chemin. Et il imaginait, pour l'aborder, des complications du hasard, des périls extraordinaires dont il la sauverait. Ainsi, les jours s'écoulaient dans la répétition des mêmes ennuis et des habitudes contractées. Il feuilletait des brochures sous les arcades de l'Odéon, allait lire la revue des Deux Mondes au café, entrait dans une salle du Collège de France, écoutait pendant 1 heure une leçon de chinois ou d'économie politique. Toutes les semaines, il écrivait longuement à Deslauriers, dînait de temps en temps avec Martinon, voyait quelquefois M. de Sisy. Il loua un piano et composa des valses allemandes. Un soir, au théâtre du Palais-Royal, il aperçut, dans une loge d'avant-scène, Arnoux près d'une femme. Était-ce elle? L'écran de taffetas vert, tiré au bord de la loge, masquait son visage. Enfin, la toile se leva. L'écran s'abattit. C'était une longue personne, de 30 ans environ, fanée, et dont les grosses lèvres découvraient, en riant, des dents splendides. Elle causait familièrement avec Arnoux, et lui donnait des coups d'éventail sur les doigts. Puis, une jeune fille blonde, les paupières un peu rouges comme si elle venait de pleurer, s'assit entre eux. Arnoux resta dès lors à demi penché sur son épaule, en lui tenant des discours qu'elle écoutait sans répondre. Frédéric s'ingéniait à découvrir la condition de ces femmes, modestement habillées de robes sombres à col plat rabattu. À la fin du spectacle, il se précipita dans les couloirs. La foule les remplissait. Arnoux, devant lui, descendait l'escalier, marche à marche, donnant le bras aux 2 femmes. Tout à coup, un bec de gaz l'éclaira. Il avait un crêpe à son chapeau. Elle était morte, peut-être. Cette idée tourmenta Frédéric si fortement qu'il courut le lendemain à l'art industriel et, payant vite une des gravures étalées devant la montre, il demanda au garçon de boutique comment se portait M. Arnoux.